France Inter. Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, trois de mes coups de cœur de la rentrée littéraire, trois textes qui creusent la nuit des violences, des disparitions, de l'oubli aussi.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Pour cette première, nous retrouverons la romancière Natacha Apana. Dans La nuit au cœur chez Gallimard, elle raconte l'histoire d'une emprise, la sienne, à 17 ans, lorsqu'un écrivain plus âgé la détourne de sa famille, de ses amis, pour l'enfermer dans une relation faite de manipulation, de peur, de violence. Mais le livre va au-delà du récit intime. Il se mêle à deux autres destins tragiques, celui d'Emma, sa cousine mauricienne tuée par son mari en l'an 2000, et celui de Shainez Daoud, assassinée à Mérignac en 2021. Trois femmes, trois courses dans la nuit pour échapper à l'homme qui veut les tuer. Avec nous aussi la romancière belge Caroline Lamarche, prix Goncourt de la Nouvelle 2019, qui publie cette rentrée Le Bel Obscur au Seuil. Tout part de photos, d'archives retrouvées dans la maison familiale qui révèlent l'existence d'Edmond, un ancêtre du 19e siècle mystérieusement effacé de la mémoire des siens. À partir de ces fragments, Caroline Lamarche recompose la vie de ce jeune homme brillant, mort à 30 ans, loin de chez lui. Mais ce fantôme convoqué par l'écriture fait écho à un autre effacement plus intime, celui que la narratrice a vécu lorsque son mari lui a révélé son homosexualité. De ce double mouvement, retrouver l'absent d'hier et mettre des mots sur une blessure personnelle, naît un récit puissant sur la mémoire, le secret et la puissance de la littérature pour redonner une place aux effacés. On n'est donc pas très loin du projet de Raphaël Sigal, notre dernier invité, qui publie son deuxième livre, Géographie de l'oubli chez Robert Laffont, livre d'ores et déjà récompensé par le prix Méduse. Ici, ce sont les silences de l'histoire qui occupent le cœur du livre, ceux de la grand-mère du narrateur, survivante de la Shoah, dont la mémoire vacille sous l'effet de la maladie d'Alzheimer. Comment écrire à partir de l'absence? Comment hériter de ce qui n'a pas été dit? Trois livres, trois voix donc, mais un même vertige, celui de la disparition et du silence. Comment dire ce qui a été tué, oublié, effacé? C'est la question que nous poserons aujourd'hui à nos invités, avec la complicité de nos libraires francophones. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Natacha Apana, Caroline Lamarche, Raphaël Sigal, bonjour à tous les trois. Dans cette rentrée, depuis quelques temps déjà, je constate qu'on a beaucoup de livres autour de la nuit, et même avec le mot « nuit » dans le titre. La nuit fait partie de vos livres à chacun. Natacha Apana, vous qui avez choisi « La nuit au cœur » pour titre, qu'incarne la nuit pour vous ?
Dans ce livre-là, précisément, la nuit incarne une traversée pour Emma, une traversée pour Shainez et ma propre traversée. J'ai eu du mal à trouver ce titre, je dois avouer.
C'est ce que j'allais vous demander.
Oui, absolument. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce titre, mais ce n'est pas exceptionnel. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver des titres. Je savais ce dont je n'avais pas envie. Et je savais que pour celui-là, je voulais qu'il y ait le mot « cœur » dedans. Parce que, au bout du bout du bout, pour toutes ces femmes, c'est le dernier battement du cœur qui m'importait et que j'entendais.
Et la nuit symbolise quoi? Est-ce que c'est... Bon, c'est une réalité d'abord?
C'est une encre, l'encre de la nuit. J'ai eu aussi l'impression d'avoir écrit depuis le noir et dans le noir. Et c'est pour ça, la nuit, sa couleur, son encre, son obscurité, sa profondeur aussi, sont des choses qui sont très présentes dans le livre.
On pense aussi à la nuit des contes de fées. On a l'impression, voilà, ces trois femmes qui s'échappent, les premières pages de votre livre, Natacha Apana, on se dit, il y a une forme de répétition aussi de cette nuit. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça.
Oui, il y a une forme de répétition, il y a une forme de chose qui se scande à chaque fois, qui revient comme les heures sombres qui reviendraient, mais dont on chercherait à chaque fois quelle est l'origine, quel est le début, quelle est la fin, mais on ne trouve pas. En tout cas, le livre littéraire, il est là, en réalité, dans l'exploration de cela. Où est-ce que ça se cristallise? Où est-ce que ça prend fin, en réalité?
Caroline Lamarche, dans Le Bel Obscur, la nuit est contenue dans l'obscurité du titre déjà, mais aussi dans les archives, ce portrait rongé par l'ombre dans l'effacement de votre aïeul. Qu'est-ce que cette obscurité vous permet de raconter?
Je dirais que le titre même porte déjà le sujet. Je l'ai trouvé par hasard en cherchant autre chose sur Internet. C'est un extrait d'un texte de Francis Ponge, « Le corps du bel obscur ». hors du train des paroles. J'ai trouvé ça d'une beauté stupéfiante. Et pour moi, le corps du bel obscur, le corps, le mot corps est important. Je ne l'ai pas mis dans le titre, c'était trop long. Mais ça tourne bien autour du corps et du bel obscur qui est le corps homosexuel, mais qui est aussi le corps de la narratrice, quelque part condamnée à une forme de solitude et de délaissement. Et c'est aussi ce autour du quoi, de quoi nous tournons, je pense, tous les trois, c'est-à-dire cet obscur qui nous échappe, qui est aussi, et on le sait très bien dans le cas des violences faites sur les femmes, une confusion. C'est le déni aussi, l'obscur. C'est l'idéalisation, et là, c'est le bel obscur. Donc, je trouvais que ce titre me permettait de ramasser beaucoup de dimensions de mon livre.
Et c'est un titre qui vous va bien, parce que vous parlez aussi beaucoup de vos insomnies, et pas que dans ce livre. L'insomnie, c'est vraiment un motif qui revient dans toute votre œuvre.
Et oui, j'en ai été sauvée par l'écriture, certainement, par une bonne psy, certainement, et aussi par tous les podcasts de Radio France que j'écoute à longueur de nuit aujourd'hui.
Et donc vous ne dormez pas la nuit, vous ne dormez toujours pas.
Je dors par intermittence, mais je m'endors heureuse et sereine en apprenant plein de choses.
Raphaël Sigal, chez vous, la nuit se trouve dans votre langue. Une langue qui avance à tâtons, au conditionnel, comme si le récit hésitait, reprenait, trébuchait. Comment cette forme est née dans Géographie de l'oubli ?
Moi, dans le livre, il me semble que la nuit est présente dans les rêves et les cauchemars. Donc j'essaie de raconter cette histoire d'une grand-mère que j'ai très bien connue, mais dont je n'ai pas su l'histoire. Il me semble que tout ce qu'on appelle maintenant le transgénérationnel s'est communiqué à moi par la nuit, par les insomnies également, desquels je me soigne également avec des podcasts de Radio France.
C'est bien, mais donc,
et il y a une autre scène que m'évoque la nuit dans le livre. C'est un film de Chantal Akerman dont je parle, qui est son dernier film, No Home Movie. Lorsqu'elle est au chevet de sa mère, qui est en train de mourir, et qu'elle essaie de faire parler sa dernière de son expérience des camps de concentration, et que sa mère continue de s'enferrer, de s'emmurer dans le silence. Et Chantal Akerman prend sa caméra la nuit et court dans son appartement. Et on sent vraiment, enfin c'est ce que j'explique dans le livre, mais on sent le trauma. J'ai vu le trauma. Je ne savais pas qu'on pouvait voir le trauma. Et en voyant cette scène filmée de nuit, j'ai vu comment agissait le trauma sur les corps et comment on pouvait représenter aussi.
En effet, il y a un autre point commun dans vos livres, c'est le silence. On en parle quand on revient, mais avant cela, un peu de musique avec Bertrand Belin, l'inconnu en personne.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, mais j'entends leur pas dans le désert. J'entends leur pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flamme, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emportée dans la mort, l'amour, le carbone, je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon, il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
Vous écoutez Au Livre, etc. Et nous sommes toujours en compagnie de Natacha Apana, Caroline Lamarche et Raphaël Sigal. Natacha Apana, votre roman mêle trois destins féminins et parmi elles, une seule survivante, vous. Vous aviez 25 ans quand votre compagnon a failli vous tuer, mais vous le fréquentiez depuis vos 17 ans. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre qui m'a vraiment parlé parce qu'il résume tout.
Je ne sais pas ce qui pousse un homme de 50 ans à séduire une jeune fille de 17 ans, à l'amener à rompre avec toute sa famille et ses amis, à la garder des années avec lui, à faire en sorte qu'elle se contente de bien peu, à l'isoler, la domestiquer, à la servir, puis le jour où elle voudra le quitter, à lui faire peur, la terroriser, la surveiller, la frapper, la menacer. Je me demande s'il y a préméditation, adressé lentement, brique après brique, un mur autour d'elle afin qu'elle soit inatteignable. Physiquement, bien sûr, mais également moralement, spirituellement. Je me demande si tous les jours, pendant les années où elle reste avec lui, je me demande si tous les jours, il vérifie la solidité de ce mur-là. Je me demande s'il le pense vraiment quand il dit, parfois, pour rire, si tu me quittes, je te tue. Je voudrais savoir si ce genre de pouvoir d'emprise est inné, si ce genre d'ascendance est acquis, ou s'il faut être au bon endroit, au bon moment, trouver une sorte de victime idéale.
Natacha Apana, est-ce que vous avez trouvé des réponses à ces questions en écrivant le livre ?
C'est difficile à dire, parce que quand j'ai pu envisager l'écriture de ce livre, il est venu pas par une intention de ma part, il est venu parce que j'ai appris la mort de Shahin Esdaoud en mai 2021. J'habitais à Bordeaux et elle est morte tout à côté. C'est drôle les choses, je ne sais pas si c'est la proximité, si c'est la course, si c'est sa mise à mort publique, la manière dont elle a été chassée, la manière dont elle a couru, le bruit que ça a fait, que personne n'a entendu. Je ne sais pas si c'est tout ça, ça m'a convoqué littéralement, mais pas juste moi en tant que femme, mais moi en tant qu'écrivain, en me disant mais tu travailles autour de l'observation des rapports humains depuis très longtemps, autour de la condition humaine, il faut un jour faire ces choses-là, il faut un jour se regarder vraiment. Et quand j'ai commencé, je ne voulais pas faire ça, je ne voulais pas regarder si j'avais été une sorte de victime idéale. Je ne voulais pas explorer si j'avais eu une sorte de faiblesse, si vous voulez, en moi. Et pourtant, j'ai dû le faire. Et j'ai compris que non, que je regardais au mauvais endroit, que c'était pas vers moi, qui avait 17 ans à l'époque, ou vers Emma, ou vers Shahinez qu'il fallait regarder, mais envers leur mari, leur compagnon, leur prédateur.
Caroline Lamarche, est-ce que vous aimeriez réagir à ce que Natacha vient de dire ?
Je voudrais réagir au passage lu, parce que ce qui m'a fasciné dans cette lecture, quand Natacha dit « je me demande », elle interroge le dispositif mis en œuvre par celui qui a l'emprise sur elle. Or, le début du livre est fascinant parce que Natacha Pana met ces trois hommes, dont on ne connaîtra que des initiales, dans une pièce vide, imaginaire, et c'est elle qui invente un dispositif pour les placer là où ils ne pourront plus s'enfuir. Et cette espèce de revanche ou d'inversion du stigmate m'apparaît encore plus clairement à la lecture de ce passage, en fait.
Le mot revanche, Natacha Pana, est-ce qu'il vous plaît ?
Alors, je n'y ai pas pensé, mais merci beaucoup, Caroline. Je dois dire tout simplement que ce premier chapitre, pour moi, il est essentiel.
Il faut dire ce qu'est ce premier chapitre.
Oui,
c'est vraiment les trois hommes dont vous allez parler, les trois histoires, et que vous placez effectivement en situation dans leur vie quotidienne.
C'est un chapitre qui a un titre qui s'appelle « La pièce imaginaire » et qui commence par « Ils ne sont pas entièrement mauvais » parce que je voulais les montrer dans toute leur banalité, leur ordinarité. Ça n'existe pas, ce mot, mais je l'aime bien, ordinaire.
C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'il n'y a pas de monstres ?
Oui, c'est pour dire qu'à partir du moment où on croit qu'ils sont des monstres, ça veut dire qu'ils sont dans un monde parallèle à nous. Et en réalité, non, ils sont avec nous. Pour moi, c'est un chapitre qui est avec une mise en place narrative importante, avec un déroulé. Et pour moi, c'est un chapitre socle sur lequel je me tiens. Et c'est comme si je m'adresse à eux pour dire maintenant, vous allez fermer vos bouches et vous allez écouter. C'était littéralement dans ma cuisine interne la manière dont je m'adressais à eux.
On en sort comment d'un livre pareil, Natacha Pana ?
Vous savez, ça a été très long, hein. Ça a été 4 ans et demi presque d'écriture. J'ai parfois eu l'impression de quelque chose d'un peu fou, parce que je me réveillais les matins en me disant « mais c'est une bêtise, ça ne va jamais arriver », parce que la forme de ce livre-là m'inquiétait. Quelle forme ça prendrait ? Est-ce que chaque mot serait à sa place ? J'avais tellement à cœur de respecter la dignité et la pudeur de chaque femme. Ce besoin qui est en moi depuis longtemps se voyait triplé. J'écrivais évidemment vers elle, vers Emma et Shainez, mais lentement, je me suis rendu compte que j'écrivais avec elle. Parfois c'était douloureux, mais parfois c'était très beau. J'ai aimé cette traversée-là.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous vous êtes jamais dit « je reste sur mon histoire ». C'est aussi une manière de parler pour toutes les femmes, même si vous avez expliqué que c'était l'élément déclencheur. Pourquoi était-il nécessaire d'avoir deux autres femmes dans ce dispositif ?
Je ne crois pas que j'aurais pu ou j'aurais eu envie d'écrire qu'une histoire, parce que ce n'est pas un témoignage. Ce n'est pas un récit où je dis voilà ce qui m'est arrivé. C'est vraiment essayer de rentrer à l'intérieur de ce récit-là, à l'intérieur de cette leçon de noirceur.
Et puis la répétition aussi.
Bien
la répétition
sûr.
Est intéressante. Ce que disait Caroline Lamarche, c'est ce dispositif aussi des trois hommes au début, les trois femmes qui ont des âges différents, qui sont différentes. Ça renforçait aussi.
Il y a consolation, même si ce n'est pas le bon mot, je suis désolée, à penser, à découvrir que, en réalité, ces choses-là sont arrivées, arrivent, me sont arrivées, et sont arrivées à Emma et Shainez. Pour moi, il était essentiel d'accompagner. Ensuite, vous savez, les vivants voudraient toujours parler des morts et de la mort. Et j'étais à un endroit qui était compliqué parce que j'avais l'impression d'avoir vu quelque chose de près. Voilà, j'ai reculé ou je n'ai pas passé cette étape-là, je n'ai pas passé cette chose dont personne ne peut parler, mais que les deux autres femmes l'avaient passé, elles. Mais que de cet espace très près géographiquement, je pense au titre là,
absolument,
j'avais l'impression que je pouvais encore les voir.
Il y a une question qui m'a traversée quand j'ai lu votre livre, je suis obligée de vous la poser. Qu'est-ce qu'on hérite de la violence ? Qu'est-ce qui reste en vous de cet homme ?
Une méfiance, une attention, toujours, une hypervigilance, toujours, une manière de ne pas croire aux autres, qui est chez moi inné. Ensuite, il y a aussi, je crois, une hyper attention à la manière dont les hommes vivent entre eux, s'aiment entre eux, se font mal entre eux.
Caroline Lamarche, si je vous posais la même question sur l'héritage de la violence.
Il me semble que les livres que j'ai écrits sur la violence dans ma vie sont derrière moi, que celui-ci est peut-être certainement mélancolique par moment ou un livre de solitude, mais qu'il est aussi très lumineux. Que dire de l'héritage de la violence? Je pense qu'on la porte toujours dans son corps, dans son esprit. Et en effet, cette hyper-attention a longtemps été la mienne. Et je vois arriver à des kilomètres les situations qui vont générer une violence, en général mentale ou psychologique. Et maintenant, je suis comme un animal aguerri qui me garde bien d'apparaître dans ces moments-là.
Natacha Panage, vous avez envie de réagir?
Oui, je suis fascinée par cela parce que je vois bien que je suis vigilante, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de nécessairement préparé. Vous comprenez? J'aime à penser que je le suis, mais je ne le suis pas forcément.
C'est vrai qu'on se pose la question de la reproduction. Il y a des femmes pour qui ce schéma d'emprise se répète.
Est-ce que je peux vous répondre de manière un petit peu plus distante? C'est vrai que moi, si vous voulez, tous les romans que j'ai écrits ne sont pas des romans écrits en truchement de quelque chose, en disant « j'ai envie de dire ça, mais je n'ai pas le courage de le dire, donc je me cache derrière ces choses-là ». Le mot « roman » n'a jamais été un antiseptique, si vous voulez. Et le jour où j'ai pu l'affronter, je l'ai fait avec un jeu qui veut dire « le jeu ». Ceci étant dit, je crois aussi que c'est parce que pour moi, cet épisode entre 17 et 25 ans, il a toujours existé, mais c'est quelque chose que je ne regardais pas. Et à partir du moment où je l'ai regardé vraiment, j'ai pu parfois me souvenir de ce que j'avais oublié ou de ce que j'ai cru avoir oublié, de trouver des parallèles. Et aujourd'hui que le livre est sorti, par exemple, ma mère m'a parlé de choses que j'avais oubliées moi.
Moi, je voudrais ajouter quelque chose que j'ai appris, c'est que nous ne sommes pas des victimes. C'est ma psychiatre qui m'a dit, vous n'êtes pas une victime, vous êtes une proie, et nous allons changer ça. Je pense que les prédateurs sentent les proies. Et donc, nous devenons victimes par cet état de proie. Et qu'on peut s'en guérir, travailler ça, pour ne plus jamais être une proie. Évidemment, l'écriture y aide beaucoup.
Moi, c'est quelque chose auquel j'étais très sensible, moi, dans les trois livres, enfin dans les trois, dans mon livre, mais particulièrement dans le livre de Natacha Apana. C'est une expression qui a claqué comme ça, c'est putain de métaphore. Mmh. C'est lorsque on sent que vous n'utilisez pas cette insulte à la légère, parce qu'elle ne fait pas partie usuellement du vocabulaire du livre. Et c'est ce moment où la violence est telle qu'on se demande si on va pouvoir la prendre par des mots. Et finalement, même par les mots, on est obligé de faire un pas de côté, on est obligé d'utiliser cette métaphore, mais la métaphore vient quelque part aussi annuler la violence. Donc je trouve ça très beau, cette espèce du fait de se débattre avec la langue. C'est-à-dire qu'on n'a que la langue, il n'y a que un livre.
Et de le dire.
Oui, de le dire, il n'y a que le livre qui peut performer ce qu'on cherche à dire. Et en même temps, sur le livre, plane la menace que finalement, le langage ne peut pas faire ce qu'on lui demande de faire.
Le langage échoue.
Le langage échoue, voilà. Et j'ai trouvé ces allers-retours dans le livre et les réflexions que vous menez autour de la langue, toutes les deux très belles.
Natacha Apana, dans l'émission des libraires, interviennent chaque semaine. Pour vous, j'ai donc le plaisir d'accueillir Audrey Martel de la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières au Canada. Bonjour Audrey.
Bonjour Lilia, bonjour Natacha.
Bonjour.
On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Qu'avez-vous pensé du roman de Natacha Apana?
Je lis beaucoup, vous vous en doutez, mais c'est quand même rare qu'un livre va me happer dès les premiers mots même. Et c'est ce qui est arrivé quand j'ai ouvert La Nuit au cœur. Je savais que je me glissais dans un récit qui allait être dur, mais qui me captiverait. Votre livre, Natacha, est de ceux que l'on est incapable de lâcher, qui nous révoltent, nous abîment et nous soignent en même temps. La Nuit au cœur nous ouvre les yeux comme il nous ouvre le cœur. J'admire votre courage parce que oui, ben ça en prend pas mal de courage pour dépasser la frontière de la fiction afin de témoigner de son histoire comme vous le faites en utilisant le « je » sans se cacher. J'admire aussi l'empathie dont vous faites preuve envers l'histoire des autres femmes. Finalement, votre écriture ciselée se prête parfaitement à ce genre de texte puisque ça contribue à donner un rythme enlevant qui nous tient en haleine et nous garde sur le qui-vive, un peu comme les femmes dans le roman.
Et Audrey, vous aviez une question pour Natacha Apana.
J'aimerais vous entendre sur le processus qui vous a amené à partager cette histoire très personnelle-là. Est-ce que c'est un projet qui vous habitait depuis longtemps? À quel moment on décide de faire le pas pour en parler, pour parler de nous?
Je précise juste la question. Est-ce que vous saviez, Natacha Apana, que vous écririez un jour cette histoire?
Non. Non, je pensais que je ne l'écrirais jamais et je crois aussi que ça ne m'intéressait pas.
Natacha Apana, Caroline Lamarche, Raphaël Sigal, on se retrouve dans un instant pour parler précisément de la première personne du singulier et de la manière d'user du je, J-E, dans vos romans respectifs. C'était Françoise Hardy, Fleur de Lune, et nous sommes toujours en compagnie de Natacha Apana, Caroline Lamarche et Raphaël Sigal. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Tout à l'heure, on parlait avec Natacha Apana de l'incapacité, l'impossibilité qu'on a parfois à dire ou écrire certaines choses. Raphaël Sigal, dans Géographie de l'oubli, vous parlez, vous, de l'impossibilité de raconter la Shoah, ou du moins de la fictionnaliser. Vous écrivez « On ne fictionne pas avec les camps ». Il y a donc des choses qui ne se racontent pas.
Je me suis mis à écrire ce livre sans vraiment savoir pourquoi, au moment où j'écrivais une thèse de littérature consacrée à Antonin Artaud, donc quelque chose de très différent. Et quelque chose m'a poussé à vouloir écrire sur la Shoah. Pas les camps en particulier, parce qu'aucun de mes grands-parents n'a connu les camps d'extermination. Et je me suis mis à écrire une autobiographie de ma grand-mère. C'est-à-dire que je me suis mis à utiliser cette première personne en parlant à travers elle, par elle, pour elle, au moment où elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que son jeu à elle fuyait par oubli. Et il me semble, c'est quelque chose que j'ai compris récemment, c'est quelque chose d'assez simple, mais finalement qui m'a sauté au visage très récemment, c'est que j'ai tenté de parler pour elle au moment où elle ne pouvait plus parler elle-même, d'elle-même. Et ce faisant, je me suis quand même rendu compte qu'elle ne m'avait jamais parlé de son enfance, qu'elle ne m'avait jamais parlé d'elle en dehors de la relation qu'on avait, elle et moi. Et du coup, ce livre est né un peu à la croisée de cet oubli que constitue Alzheimer, c'est-à-dire qu'un oubli que j'appelle un oubli involontaire dans le livre, et un oubli qui est un oubli volontaire, lui, qui est consécutif au trauma que toute cette génération a vécu, et mes grands-parents en particulier, et cette grand-mère en particulier également, et que finalement, ce livre est né de la confrontation de deux oublis.
Mais comment vous avez trouvé la forme? Parce que écrire à partir de l'oubli, conceptuellement, c'est intéressant, mais concrètement?
Alors concrètement, ça a été extrêmement difficile. Et c'est pour ça que ce livre contient 4 ou 5 livres, véritablement. Et j'ai tenu beaucoup à maintenir les traces des livres précédents au sein du livre, parce que finalement, ce livre, c'est aussi l'histoire de l'écriture de ce livre. Et j'ai essayé de réfléchir à comment raconter ce qui s'est passé. J'étais en Italie cet été, je me suis dit que ça a mûri comme un vinaigre balsamique. C'est-à-dire que le vin, on le laisse mûrir, enfin je sais pas, on le laisse reposer, il ne s'épaissit pas. Alors que le vinaigre balsamique, lui, s'épaissit. Et que finalement, j'ai l'impression que ce livre est devenu de plus en plus épais. Et comme je tenais mordicus à ne rien effacer de ce qu'il constituait, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de voix qui se sont entrelacées. Il y a beaucoup de techniques d'approche aussi que j'ai dû utiliser pour y arriver.
on va parler technique. Vous avez choisi une forme assez originale, avec assez fragmentaire. L'un de vos chapitres s'appelle « La règle du jeu ». J.E. Et j'aimerais que vous nous lisiez la règle que vous vous êtes fixée et qu'on retrouve dans le livre.
Je me donne pour règle d'écrire mon livre sans archives, sans faire la part du fantasme et de la réalité, depuis une géographie de l'oubli, pour pouvoir remonter à la source de la mémoire et de son travail. Y a-t-il un principe de construction de l'histoire qui ne soit celui du faussaire? Quitte à fausser l'histoire, autant le faire avec sincérité. Je ne trahis rien de ce qui ne m'appartient qu'à moitié. Eux, racontent un peu leur enfance, leur adolescence, leur réussite. Elles, rien. C'est comme si elles n'avaient pas eu de vie. Les femmes de ma famille survivent mal, ou elles survivent en secret, dans le secret de leur secret.
Alors, Raphaël Sigal, vous êtes professeur de littérature française dans la vie. Vous pouvez nous dire où, parce que je ne saurais pas le dire.
Alors, je suis professeur dans une petite université du Massachusetts qui s'appelle Amherst College.
Voilà, donc vous enseignez aux États-Unis. Et donc, pour vous, la littérature n'est pas le lieu du dévoilement? Mais presque un lieu de conservation du réel.
Tout à fait. Depuis que j'ai été nommé professeur, il faut écrire des articles. Et l'idée d'écrire sur des auteurs m'a de plus en plus déplu, parce qu'il manquait quelque chose dans ma relation à eux. Plus le temps a passé, plus j'ai tenté de penser en compagnie de mes auteurs, avec eux. Et finalement, pour écrire cette histoire que je ne pouvais pas écrire, parce que je n'avais pas la matière narrative, finalement, pour le faire, parce que je ne connaissais pas l'histoire de ma grand-mère, et je refusais vraiment, j'utilise l'expression, d'aller soulever ses jupes. Il y a quelque chose de très pudique dans ma famille, et je ne voulais absolument pas transgresser cette pudeur. Et je me suis rendu compte, finalement, que des auteurs, qui étaient très proches de moi, m'aidaient à pouvoir raconter mon histoire. Alors c'est Georges Perec, principalement, qui lui-même parlait dans ses livres d'une autobiographie potentielle.
Est-ce que ça revient pas à se cacher un peu?
Ça revient à ne pas trop dévoilé.
Mais justement, Caroline Lamarche, est-ce qu'écrire, c'est pas transgresser, justement?
Je dirais que c'est prendre des risques, certainement. Enfin,
vous avez des démarches opposées, en fait, tous les deux. C'est pour ça que je me tourne vers vous, Caroline Lamarche, c'est que vous avez choisi l'enquête.
J'ai choisi l'enquête, mais en même temps, je pense que dans nos 3 livres, il y a un refus d'instrumentaliser les personnes absentes ou qui ne peuvent plus s'exprimer. Je tourne autour de ce titre, ou plutôt de la phrase de Ponge, « Le corps du bel obscur dans le hors du drap des paroles ». Et je pensais « hors du drap des paroles », c'est tous les invisibles, toutes les personnes qui sont muettes, que nous devons ramener par notre parole. Mais « hors du drap des paroles », ça veut dire aussi « ne fais pas trop de phrases ». Et je pense que c'est ça aussi que j'aimais en vous lisant tous les deux, c'est que c'est à la fois une interrogation sur l'écriture en train de se faire, un peu moins chez moi, mais en tout cas chez vous deux, mais c'est aussi extrêmement concret, avec des détails vivants, cinématographiques, même dans un livre comme le vôtre, Raphaël. Et vraiment, chaque expression, même pour dire une pensée, elle est reliée à du concret. J'aime pas tellement le mot de transgression, c'est comme s'il y avait une transgression obligatoire. On va écrire quelque chose qui va être remarqué ou qui va un peu bousculer. Moi, j'ai toujours beaucoup de doutes quand j'écris. Nous nous demandons certainement tous, faut-il vraiment écrire ce livre ? Et finalement, c'est en faisant que la réponse vient elle-même, c'est-à-dire que c'est le livre qui porte les réponses en lui-même. Donc pour moi, je ne vois pas très bien où est la transgression, plutôt...
Et dans votre cas, justement, dans votre livre, est-ce que la forme s'est imposée d'emblée dans cet aller-retour entre votre aïeul et puis vous-même ?
Mon père disait, lui qui était passionné d'archives, que quand on avait une archive lacunaire, peu d'archives, c'était un personnage en quête d'auteur. Et ça, c'est magnifique, parce que le livre qui a précédé l'Asturienne, c'était vraiment un récit familial avec une centaine d'archives. Et je ne pouvais pas faire un roman ici, j'ai fait un roman véritablement, mais en même temps, c'est une enquête, certes vagabonde, mais très serrée et très documentée sur l'époque de cet ancêtre, en observant les moindres traces, comment il a pu mourir. C'était quoi ce qu'il a vécu alors qu'il est mort 3 ans avant que le mot homosexuel soit fondé, inventé, je dirais, par un journaliste hongrois, un spécialiste des droits de l'homme. Et nous savons bien que, s'agissant de l'amour, et surtout du désir de l'amour durable, nous pratiquons beaucoup le déni et l'idéalisation. Et l'histoire de cette...
Ça nous parle tous, je vois Natacha qui cache la tête.
On a envie que ça marche, que ce soit beau. Et pénétrer dans l'histoire de cette entraide, entrer par le biais d'une archive dans une histoire personnelle qu'on trimballe depuis 30, 40 ans, qui vous habite depuis longtemps, c'est un formidable cadeau, parce qu'en prenant soin du disparu, on prend soin de soi-même en réalité et on interroge sa propre histoire. Et à la fin du livre, les derniers mots, c'est précéder, accompagner, sauver. Qui m'a précédé, accompagné, sauvé ? C'est mon ancêtre, Edmond, mais c'est aussi la lutte des homosexuels pour leur reconnaissance et leur libération. Il ne faut pas inverser les rôles. Nous venons après. Et donc, c'est ça qui m'a porté en réalité, c'est à la fois l'histoire de ce couple contemporain que je raconte, qui se donne une liberté mutuelle, qui, quelque part, c'est une émancipation conjointe, mais aussi la solitude de cet ancêtre que j'ai pris avec moi parce que j'ai l'âge qu'avait sa mère quand elle l'a banni de la famille. Et j'ai voulu prendre soin de lui.
Vous aimez beaucoup les signes, Caroline Lamarche. Il y a une part d'ésotérisme dans votre livre. Est-ce qu'il faut croire à la magie pour écrire ?
Je dirais que je ne parlerai pas de magie, mais de signes, certainement. J'ai dévoré Carl Gustav Jung quand j'avais 18 ans. Et surtout, mon inconscient m'envoie des messages sous forme de rêves qui sont souvent magnifiques. Et pourquoi ne mettrait-on pas quelques rêves dans un livre ? C'est aussi un paysage. Je ne crois pas vraiment à la magie, mais la magie, elle vient au terme d'un travail intense. C'est comme quand vous interrogez le Yi Qing. Il faut poser la bonne question pour avoir la réponse. Mais poser la bonne question pour un écrivain, ça prend parfois 400 pages.
C'est pas Raphaël Sigal qui dira le contraire. Vous aussi, vous travaillez à partir de presque rien, en fait, de signes.
Oui, c'est vrai, parce que la thèse consacrée à Antonin Artaud était consacrée justement à la magie dans l'œuvre d'Artaud. Et moi, je me sens précédé de toute une tradition qui utilise le langage magique, quelque chose qui est de l'ordre de l'incantation, et du cri, du chuchotement, de tout ce qui dépasse un peu le langage que l'on comprend aisément, mais qui vient l'entourer aussi. Récemment, dans un des podcasts que j'écoutais la nuit, une autrice, dont je ne me rappelle plus le nom, disait qu'il fallait que, lorsqu'on coupait des choses dans un livre, on entendait encore le silence des paragraphes coupés.
Alors ça c'est assez beau.
Ça m'a beaucoup plu. Donc moi, comme le dit Caroline Lamarche, je sens que oui, on a le langage à notre disposition, on a les mots, ce qu'ils signifient, ce qu'ils représentent, mais ce langage charrie tout ce qui nous entoure, le monde entier. Et le monde entier à mettre dans un livre, c'est autrement plus compliqué.
Et puisqu'on parle de rêves, je tiens à dire qu'il y a des rêves magnifiques aussi, qui sont à la fois glaçants et magnifiques dans le livre de Natacha Apana, et notamment les mamans qui sentent la mère d'Emma sans ce qui est en train d'arriver à sa fille, la nuit où elle est tuée, elle a mal au bras, elle se réveille et elle dit qu'elle a son bras comme mort.
Oui, elle dit mon bras est mort.
Mon bras est mort. Et vous-même, en tout cas la narratrice de votre livre, Natacha Apana, on peut dire vous d'ailleurs.
Oui, on peut dire moi, bien sûr.
Alors que vous n'aviez pas de nouvelles de votre mère, elle vous a téléphoné.
Oui, elle m'a téléphoné un matin après une nuit assez violente. Elle m'a téléphoné et j'ai pensé qu'elle avait rêvé de moi. Mais pendant l'écriture de ce livre, j'ai tenu un carnet de rêves. Parce que je faisais des rêves très étranges et je sentais que dans l'étrangeté de ces rêves-là, il y avait quelque chose à... non pas à comprendre, mais quelque chose à regarder. Et c'est drôle parce que je l'ai noté au réveil. Donc ça a duré quelques années. Hein. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai rouvert ce carnet et ça m'a semblé être une fiction totale. Je ne me souvenais pas du tout de ses rêves et je les décrivais et c'est comme des débuts de romans ou des idées de romans à chaque fois.
C'est beau comme les rêves nous accompagnent. Caroline Lamarche, c'est une libraire belge, libraire de chez vous, qui a lu votre Belle Obscure. Aurélie Vergieux, bonjour.
Bonjour Lilia, bonjour Caroline, bonjour tout le monde.
Vous êtes libraire à la librairie Molière à Charleroi et je crois que vous avez, comme moi, beaucoup aimé ce livre. Je vous laisse la parole.
Alors oui, effectivement, j'ai vraiment beaucoup aimé, et pour plusieurs raisons. Alors Caroline Lamarche, en lisant votre livre, malgré évidemment la singularité de la situation, on a quand même l'impression que c'est de nous tous que vous parlez. Nous, les lecteurs, on s'identifie forcément à un moment ou l'autre de ce que traverse votre narratrice, puisqu'elle aborde avec authenticité et une grande sensibilité la question du couple, de la famille, et de ce que nous sommes prêts à supporter ou à accepter en leur nom. Et ce qui me touche particulièrement, c'est que vous soulignez à quel point l'autre, quel qu'il soit, est un mystère. Dans le cas de votre aïeul Edmond, on le comprend aisément. Évidemment, vous possédez très peu d'éléments matériels, très peu d'indices pour mettre à jour sa personnalité, ses aspirations et ses rêves. Mais parallèlement, et c'est dans ça que je trouve votre livre vraiment bouleversant, votre mari Vincent, avec lequel vous avez pourtant vécu de nombreuses années, reste tout autant en fait une énigme. Vous l'avez côtoyé au quotidien, vous l'avez aimé, et pourtant il vous échappe. Et il est, comme vous le dites, une énigme vivante. Et par-delà cette inévitable part d'inaccessibilité à l'autre, vous interrogez les fils invisibles qui nous relient et qui résistent à la séparation. Et je trouve ça très fin, c'est terriblement bien observé. On sent que vous êtes de ceux qui aiment comprendre et explorer les sentiments humains, si complexes quand il s'agit d'amour. Un autre aspect qui m'émeut profondément, c'est cette irrésistible envie d'une vie intense. Et en ça aussi, je suis vraiment certaine que votre livre résonnera en chacun de vos lecteurs.
Et vous aviez une question, Aurélie.
Oui, il y a une question. Caroline Lamarche, votre livre est traversé par le thème de l'eau. L'eau, parfois, elle est salvatrice. Vous parlez de votre amour pour la natation, par exemple. Et parfois, elle est dévastatrice. À de nombreuses reprises, il y a des allusions... aux terribles inondations à Liège en 2021. Vous soulignez aussi que vous êtes du thème astral poisson. On a parlé de votre adresse pour les signes. L'eau est un élément qui vous inspire ?
Oui, d'abord, je dois vous remercier, Aurélie. J'étais très touchée par la finesse, vraiment, de votre approche. Et je me réjouis de venir à Charleroi bientôt. Oui, je suis quelqu'un de l'eau, et de l'eau froide et de l'eau glacée. Et puis, vous savez, comme nous tous, qu'il y a eu des inondations climatiques en Belgique en 2021. Et j'ai été sur le front des inondations 6 mois plus tard pour recueillir les récits. À un moment donné que j'appelle le temps du récit, qui n'est jamais le temps où le drame se produit. On a quand même eu 39 morts et ces paysages dévastés, je ne les oublierai jamais, d'autant que j'ai travaillé avec une photographe, Françoise Depré, pendant 10 mois. Et alors, cet élément eau en colère s'est ajouté à mon amour pour l'eau, qui est aussi un amour pour l'eau violente, puisque je n'aime que l'eau glacée pour nager, en réalité. Et le thème revient à la fin du livre, parce que je dis que quand... une nageuse qui a toujours pris des risques dans l'eau froide se retrouve sans compagnon. À un certain âge, elle n'ose plus prendre ces risques. Et du coup, entrer dans une eau tumultueuse et froide devient une menace. Et ça parle encore du couple, je pense.
Merci beaucoup Aurélie Vergieux. Caroline Lamarche, dans la présentation d'Aurélie, elle disait quelque chose de très juste. L'autre est toujours un mystère. On sent dans votre œuvre une attirance pour l'inconnu, qu'il soit humain, animal. En tout cas, pour l'autre, il y a une recherche d'altérité chez vous. Et j'ai trouvé que c'était assez peu commun, en fait, dans une époque où tout le monde cherche du même et de la reproduction.
Oui, que dire ? Raphaël, vous avez...
D'où ça vous vient ?
Je ne sais pas, je pensais à une phrase de Raphaël qui disait « J'habite un long silence ». Je pense que...
Phrase de Aimé Césaire.
Voilà,
d'Aimé Césaire. En exergue du livre.
Oui. Je pense que... on a tous habité un long silence avant d'écrire nos livres parce qu'on était face précisément à un mystère. Et c'est ça qui nous constitue et qui nous attire en même temps. Un peu comme les histoires des contes. Enfin, en écoutant Natacha, je pensais à Barbe Bleue, en fait. Et donc, cette attirance pour le mystère, c'est un côté très enfantin, notre personnalité. Et c'est notre attrait pour les histoires aussi.
Mais que vous avez conservé.
Ah bah oui, certainement. Et surtout, je respecte le mystère d'autrui, en particulier des animaux. Les chats m'aiment beaucoup parce que je ne vais pas vers eux. Je les observe, je leur parle sans leur parler, et ils viennent. Donc il faut respecter le mystère de l'autre, et l'autre vient. C'est quand même formidable.
Ça marche aussi dans les relations amoureuses, ça, non ?
Je pense.
Qu'avez-vous de commun, au fond, avec ce personnage d'aïeul, Edmond ?
Alors, ce qui est étonnant, je le dis à un moment donné, parce que c'est une enquête très vagabonde qui passe par une graphologue, une astrologue et puis des spirites, l'astrologue découvre qu'ils sont jumeaux astrologiques à 160 ans de distance, c'est-à-dire que les mêmes planètes tournent dans leur ciel. Et donc, quelque part, la communauté, elle est là. C'est très curieux, cet Edmond dont... Je tente de décrypter le secret. Pourquoi a-t-il été banni par sa famille alors qu'il a été décoré par sa ville pour acte héroïque 2 ans auparavant ? Il y a donc quelque chose d'une exclusion morale, éthique, et peut-être plus que j'élucide ensuite. Ce qui nous réunit, c'est que je l'ai pris sous ma protection et qu'il a vécu une grande solitude. Je pense que la narratrice, elle est entre deux hommes, Vincent et
Vincent, Edmond. Son compagnon.
Mais Vincent, son compagnon, en découvrant son être homosexuel, il a une communauté militante autour de lui. Il a des fêtes. Ce qui réunit Edmond et la narratrice, c'est qu'ils sont tous les deux dans la solitude. Parce que je voudrais dire une chose, c'est que mon livre, il soulève un angle mort des récits. On n'a jamais écrit sur les dégâts collatéraux de l'homophobie sur les conjoints et les enfants. Que eux aussi, quelque part, ils sont au placard pendant longtemps, mais qu'ils n'ont pas le soutien d'une communauté, que personne ne les interroge là-dessus. Et c'est ça dont j'ai parlé.
Et effectivement, je n'avais jamais rien lu là-dessus.
Non, en effet, et j'ai cherché pourtant. Et donc, c'est ça qui les réunit, c'est la solitude, je pense, sincèrement, c'est la solitude. Et un corps qui ne comprend pas ce qui lui arrive, en réalité. Caroline... Qui ne sait pas mettre des mots dessus.
Caroline Lamarche, Natacha Apana, Raphaël Sigal, on se retrouve tout de suite avec les conseils lecture de nos libraires. Mais d'abord, on écoute Flavien Berger, Sillon.
Un tourbillon.
Vous écoutez Au Livre, etc. Et c'est maintenant l'heure de retrouver nos conseils de lecture.
Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Aurélie Vergieux, rebonjour. Si Caroline Lamarche entrait dans votre librairie, quel livre lui recommanderiez-vous ?
Alors, j'ai lu récemment un roman de l'Irlandaise Nisha Dolan. Ça s'appelle The Happy Couple, aux éditions de l'Olivier. Et l'autrice y interroge habilement les relations de couple à travers les personnages de Luke et de Céline, qui sont fiancés, et qui passent tout le roman à se demander si c'est une bonne idée de se marier, finalement. Luke, il a d'autres relations, autant avec des filles qu'avec des garçons. Et Céline semble se dire que refuser ça, c'est peut-être s'enfermer dans une forme de puritanisme. Et pourtant, elle en souffre. Vous comprendrez, alors du coup, Caroline Lamarche, pourquoi je pense que vous pourriez apprécier cette lecture, parce que j'ai presque l'impression qu'il pourrait s'agir de votre narratrice et de Vincent, 30 ans avant aujourd'hui, au moment où ils ont décidé de vivre ensemble. À travers leurs récits respectifs et ceux de leurs amis, on comprend que parfois on s'accroche, alors que la situation est insupportable. Et pourtant, on résiste aussi longtemps que l'histoire qu'on se raconte tient la route.
Ça donne envie, Caroline Lamarche ? Ça vous donne envie ?
Ça me donne... Je sais à qui je vais l'offrir.
Ah, à qui ?
À ma nièce, qui se pose ces questions-là, précisément. Et donc, oui, merci, je viendrai l'acheter chez vous.
Merci Aurélie, je rappelle le titre, The Happy Couple, aux éditions de l'Olivier. Et c'est la fin de cette première émission de la saison. J'ai été ravie de vous recevoir tous les trois, merci beaucoup. Je recommande à nos auditeurs la lecture de La Nuit au cœur de Natacha Apana, un roman dont on sent l'urgence, la nécessité, un roman puissant qui m'a retournée, perturbée et qui figure parmi les coups de cœur de rentrée de la rédaction de France Inter. Caroline Lamarche, votre Belle Obscure est extrêmement riche. On trouve beaucoup de réflexions passionnantes dans ce livre. On ne cesse d'y penser, d'y repenser. J'avais jamais lu ça. C'est au seuil et je lui prédis un joli destin, tout comme votre premier roman, Raphaël Sigal, Géographie de l'oubli chez Robert Laffont, dans lequel on trouve cette phrase, tout est livre, c'est rassurant. Je ne saurais dire mieux. Merci à nos libraires du jour, Aurélie Vergieux et Audrey Martel, ainsi qu'à nos partenaires, puisque l'émission est coproduite par la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Un grand merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Sophia Nactib à la technique, Estelle Gap, Virginie Rouzic et Manon Grandière. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Juste après le flash, vous retrouverez Affaires sensibles avec Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat de Daphné Caruana Galizia à Malte.